Tout le monde a le droit de sourire. Vous aussi. Ceci est un message de l'Association des dentistes du Québec.
Ouais, avec un kick, s'il vous plaît.
Rockkick.com. You're listening to Rockkick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
Pour l'Amérique du Nord.
Midi à 16h pour l'Europe.
The Punisher.
Chris.
Corrélation.
Patrick Lamarche.
Bonjour tout le monde. Bon début d'après-midi pour les Français. Il est 8h15. Il est présentement l'heure de parler avec ma chérie Fiki exactement. Wake up le show de 6h à 10h pour l'Amérique du Nord et de midi à 16h. Le www.rockkick.com n'a pas fini de s'imposer, d'être impérialiste, tel le veut la tradition. Nous écraserons la compétition et nous représenterons la francophonie vraiment. Le www.rockkick.com, votre station de radio 100% gratuite. Merci à vous de nous écouter à chaque matin du lundi au vendredi dès 6h, dès midi. Live@rockkick.com, MSN, Skype, c'est des façons utiles et agréables de nous écrire. Masri Fiki qui est avec nous, je le salue bien haut. Bonjour Masri. Si vous le désirez, ça va très bien Masri. Oui. Si les auditeurs le désirent, vous pouvez poser des questions soit via le live@rockkick.com MSN ou sinon l'autre façon, c'est avec le logiciel Skype que vous pouvez aussi nous écrire de manière interactive. N'oubliez surtout pas que vous pouvez poser des questions si vous le désirez Masri, si vous ne vous objectez pas à cela. Les gens peuvent nous poser des questions live, vous poser des questions directement à vous, si vous le désirez.
Bien sûr, hein, c'est ce que je peux espérer de mieux.
Eh ben oui, exactement. Vous venez tout juste, mon cher ami, de sortir un livre, ou enfin, cela fait déjà peut-être un petit bout de temps que vous avez écrit. Je vais vous faire entendre la publicité, d'accord, que nous avons créée. Pour vous, à titre d'amitié et aussi par le fait même qui est très simple, c'est que vous venez donner votre temps ici. Alors, à quelque part, on veut vous rendre la monnaie de la pièce et je vous fais entendre tout de suite le montage qui a été conçu pour vendre votre livre. Et vous, on va en parler tout juste après ceci.
Né au Caire, Masri Fiki, politologue et fondateur du Middle East PAC, vient de publier aux éditions Studirama l'axe irano-syrien géopolitique et enjeux. À l'heure où la menace de l'Iran est toujours plus pesante, ce livre concis et synthétique permet de mieux comprendre les enjeux de l'alliance stratégique entre deux régimes que beaucoup de choses semblent opposer. D'un côté, l'Iran chiite, bastion de l'islamisme et exportateur de la révolution communiste, et de l'autre, la Syrie sunnite, officiellement laïque. Ces deux pays ont pourtant de nombreux points en commun et ont scellé une alliance contre les États-Unis, contre Israël et aussi contre le camp arabe pragmatique. Écrit dans un style limpide, le livre de Masri Fiki éclaire le lecteur sur le contexte historique et géopolitique de ces deux acteurs importants qui constituent aujourd'hui la principale menace au Moyen-Orient.
Masri Fiki, voilà.
Merci Ismaël. Merci. j'aime bien la musique de fond, hein. Ça correspond parfaitement à l'esprit.
C'est vrai, vous trouvez?
Oui, bien sûr.
On a fait quand même des recherches, on s'est un peu creusé le coco, hein?
Oui.
On s'est creusé le coco.
En plus, c'est la première fois, vous m'avez fait remarquer la ressemblance entre communiste. Moi j'ai l'habitude de dire communisme, c'est vrai qu'en français de communiste ça ressemble beaucoup à communiste.
Voilà. Alors voilà, comment la trouvez-vous la publicité qu'on vous a fait? Comment avez-vous trouvé le montage?
Ah, excellent, excellent.
Bon, alors on nous dit musique d'ambiance, les gens apprécient via le live@rockick.com, Massiri. Alors, peut-être nous répéter le titre du livre et nous parler, en surface, pour ne pas non plus révéler les grandes lignes du livre, mais nous parler en surface de en quoi consiste le livre plus exactement, car il y a une bannière sur le site. Les gens peuvent se procurer, dès maintenant, peuvent se procurer le livre, à moins que vous me dites le contraire, mais peuvent acheter le livre sur Amazon, n'est-ce pas?
Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis en France, on le retrouve dans toutes les librairies, il n'y a pas de problème.
Okay. Oh, aussi dans toutes les bonnes librairies, d'accord,
oui.
D'accord. Et il se détaille à combien? Je pense que c'est, j'avais vu 14 euros, est-ce que c'est ça ou...
15 euros, je crois. Oui, 15 euros.
15 euros, ok, d'accord. Alors, parlez-nous du livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, dans le fond, première question?
Alors, je me suis toujours intéressé à l'idéologie panarabe et au lien qui a toujours existé entre le panarabisme et le panislamisme. Deux idéologies qui ont structuré de façon durable la vie politique au Moyen-Orient depuis la chute de l'Empire ottoman, et notamment après la décolonisation et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux idéologies qui, en les voyant de loin, on peut se dire qu'elles sont contradictoires, mais qui en réalité ont pour des raisons tout à fait purement politiciennes collaboré de façon étroite. Alors on s'aperçoit que Nasser a fait un coup d'État contre le roi Farouk Ier en 1952, un coup d'État qui est donc appelé révolution, la révolution des officiers libres. Nasser est un laïc, mais il flirtait avec les frères musulmans, notamment Sadat, qui est devenu vice-président, qui sera plus tard le troisième président de la République, après Nasser Ineglib, et qui est un ancien frère musulman. Donc il y a déjà le flambeau du panarabisme a été porté par des gens qui, dans leur parcours, oui, on retrouve déjà des affinités avec les islamistes, notamment les frères musulmans en Égypte. Et puis, au fur et à mesure, on s'aperçoit que, au fur et à mesure que Nasser, que le nasserisme émerge en Égypte et puis dans la région, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, on s'aperçoit quand même qu'il y a une volonté de légitimer l'entreprise nasserienne par le religieux. Okay. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui sont tous sauf démocrates, qui prétendent parler au nom d'une nation qui ne les a pas choisis, qui sont arrivés au pouvoir en prenant le contrôle en Égypte, c'est Mabn al-Azhar Télévision. En Égypte, vous avez toutes les chaînes de télévision et de radio concentrées dans un seul bâtiment.
Okay.
Et c'est le bâtiment le plus protégé de la capitale. Et alors, si vous voulez, ils ont un manque de légitimité, et pour pouvoir compenser ce manque de légitimité, ils ont toujours recours aux religieux. Étant donné que le seul lieu de contestation possible, c'est les mosquées. Ils ont mis tout le monde en prison, libéraux, les communistes.
Ils ont toujours, attendez, vous avez piqué ma curiosité, ils ont toujours recours aux religieux, c'est bien ce que vous me dites, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que, ils ont voulu annexer le religieux, ils ont voulu islamiser leur projet. Nasser, par exemple, parlait de Mahomet comme du premier socialiste. Il a dit: nous n'avons pas dit que l'islam n'était pas, que le socialisme était contre l'islam, nous avons seulement dit que Mahomet était le premier socialiste. Nasser avait une rhétorique aussi qui était religieuse, hein. Les premiers exclus lors de l'arrivée au pouvoir de Nasser, c'était ce qu'on appelle les coptes, hein. Je mets copte entre guillemets, ou alors on peut dire copte chrétien, étant donné que tous les Égyptiens sont coptes à la base, y compris ceux qui se sont islamisés. Et puis après Nasser, même avec l'arrivée au pouvoir des Baasistes en Syrie, en Irak, eh bien on retrouve aussi ce lien qui a toujours existé avec les islamistes. En Irak, Saddam Hussein, vers la fin de sa vie, et même durant la guerre Iran-Irak, hein, il a toujours utilisé des formules religieuses. Il parlait des Irakiens comme des Iraniens comme des mages, al-majous, pour rappeler un peu à l'origine païenne des Iraniens et les disqualifier aux yeux de ses compatriotes. Et puis, alors c'est vrai qu'on retrouve cette affinité un peu moins visible chez les Syriens, pour la simple raison que le régime syrien est fortement minoritaire et qu'il a du mal, hein, à utiliser la religion pour se légitimer, étant donné que le régime syrien est un régime alaouite. Hein. Alors c'est vrai que le régime irakien aussi est minoritaire, mais il est minoritaire
Il est très minoritaire, oui.
Oui, voilà, il est très minoritaire. Mais de façon générale, entre panarabes et islamistes, il y a toujours eu des liens. Alors, on peut parler d'idéotypes, hein, le panarabisme qui est contre le panislamisme, le camp des révolutionnaires panarabes socialisant avec la trilogie panarabe, l'Égypte nassérienne, la Syrie baasiste et l'Irak baasiste de Saddam. Et puis d'un autre côté, le compte des conservateurs, des monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, okay, les pays du Golfe, okay, dans une moindre mesure la Jordanie. Mais en réalité,
Saddam Hussein était, je m'excuse, mais Saddam Hussein était vraiment un peu Est-ce que je peux, je sais pas, peut-être que ça va être boiteux, mais Saddam Hussein m'a toujours fait penser un peu au George W. Bush, hein, le gars du peuple, le gars près des gens ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il donnait comme image, ou enfin l'impression comme image auprès de son peuple irakien.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme différence entre Saddam Hussein et
Bush.
Le président américain est un président élu. Il a été élu pour un mandat de 4 ans. Il a été réélu. Le président, l'ancien président, l'ancien dictateur irakien n'a jamais été élu, en tout cas.
Non, tout à fait. Sauf qu'il utilisait les médias énormément pour dorer son image. Il faisait beaucoup. C'était un monsieur. Saddam Hussein, ce que j'ai toujours trouvé spécial, c'était monsieur publicité, hein. Monsieur pub. Il utilisait énormément.
Ouais, c'est de la propagande, oui, comme dans tous les régimes autoritaires.
Exactement. C'est sur ce plan-là que je trouve que George W. Bush et Saddam Hussein se ressemblent, c'est qu'ils utilisent énormément les médias pour propager leur discours, hein, une certaine forme de propagande.
Oui, vous savez, les médias sont libres en Occident. Mais bon, vous pouvez très bien critiquer le président américain dans les médias de son pays, alors que au Moyen-Orient, les choses sont d'une toute autre différence. Saddam Hussein, je ne sais pas s'il a fait une bonne publicité de lui. Il ne faut pas oublier non plus que c'est le premier président au monde à utiliser des armes de destruction massive contre son propre peuple. Alors on dit toujours, oui, mais Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive, mais il n'avait peut-être pas d'armes nucléaires. Il n'avait pas en tout cas réussi, ou on n'a pas réussi à le prouver, ou il n'a pas réussi à les acquérir vers la fin. Mais Saddam avait des armes chimiques qu'il a utilisées contre son propre peuple. Cela n'a jamais été nié par le régime en place. Et tout cela, bien sûr, était préoccupant et a suscité l'indignation de la communauté internationale. L'Irak était sous contrôle du Conseil de sécurité. Il y avait déjà un arrière-plan juridique pour l'action qui a été entreprise contre ce régime. Mais pour rester dans le vif du sujet... dirais que donc il y a toujours eu un lien entre le panarabisme et le panislamisme, toujours eu une collaboration, même si elle n'était pas toujours officielle. Et puis là aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où cette collaboration est plus que jamais officielle. Elle se fait non plus entre un État et des groupuscules islamistes ou un clergé. Non, mais elle se retrouve avec un État véritablement islamiste. C'est-à-dire que là nous avons pour la première fois dans l'histoire du Moyen-Orient, en 1979, un État devient islamiste. Toujours l'habitude des islamistes, de voir les islamistes, soit quand ils sont en pouvoir, comme plutôt des émirs, hein, des émirs traditionalistes dans des sociétés plutôt conservatrices, rigides, un peu l'islam wahhabite, le puritanisme wahhabite. Et là, pour la première fois, une révolution ne vient pas renverser, balayer
des islamistes ou des conservateurs pour mettre en place un régime révolutionnaire, mais on est dans une situation où la révolution amène au pouvoir des islamistes. C'est la révolution islamique de 1979. Et ce régime, il est mis au ban de la société des nations, enfin de la communauté des nations, de la communauté internationale. Et au Moyen-Orient, bien entendu, il est aussi isolé pour des raisons diverses et variées. D'abord parce qu'il est chiite dans une région sunnite, et puis parce qu'il prêche sa révolution, il veut exporter sa révolution dans le monde, dans le fief même de l'islam sunnite, le wahhabisme en Arabie. Et puis parce que aussi du fait de son isolement international, eh bien il est un peu isolé au Moyen-Orient, étant donné que ses voisins sont des alliés des États-Unis. Et paradoxalement, le seul pays qui s'est rapproché de l'Iran, déjà en 1979, c'est un régime qui enquêtait dans une guerre, qui menait une guerre sans merci contre ses propres islamistes à l'intérieur de ses frontières.
Oui.
Les frères musulmans, on se souvient des massacres de Hama, etc. Le président père du fils, Hafez al-Assad, interdisait les activités des groupuscules islamistes, même lorsqu'ils étaient non violents. Vous savez, il y a une loi en Syrie qui interdit qui ordonne l'arrestation et l'exécution de toute personne ayant des liens directs avec les frères musulmans, adhérents au mouvement des frères musulmans.
Adhérent directement avec les mouvements des frères musulmans, c'est spécial ça, non?
Ouais, c'est le régime alawite, c'est syrien.
Alawite.
C'est le seul régime qui, okay. Dans ses frontières, on est exécuté s'il y a des preuves qu'on a des liens avec les frères musulmans.
Okay.
Bon, les frères musulmans sont interdits un peu partout. Ils sont interdits en Égypte, même si bon, ils sont quand même arrivés à entrer dans le Parlement en tant que sur des listes indépendantes. Hein.
Okay.
Mais en tout cas, le mouvement en tant qu'organisation est interdit. On l'appelle al-Gamar al-Mahzoura, le mouvement interdit. Mais ils sont partout. On sait très bien qu'ils sont là. On sait très bien qu'ils ont une forte représentation.
On sent leur présence.
Dans le Majlis al-Shaab, le Parlement, l'Assemblée du peuple. Mais bon, ils sont présents, ils sont là. Et cette Syrie qui combat les islamistes, et cette Syrie qui ne tolère aucune présence islamiste sur son propre territoire, vous savez qu'en Syrie, en France, c'est toujours curieux de voir en France les musulmans dire « Ah, mais la France, c'est pas un pays libre, on peut pas, les femmes, pourquoi les filles ne peuvent pas se couvrir les cheveux ?» Alors oui, vous savez, et puis les gauchistes en France vous parlent de relativisme culturel, enfin ceux qui ont été pour contre l'interdiction du voile, enfin, des signes religieux, mais alors on oublie que dans certains pays musulmans le voile est interdit, non seulement dans les écoles mais dans tous les établissements publics. En Syrie, la Syrie nous sert d'exemple pour illustrer le propos. Vous savez qu'en Syrie, lors des réceptions des chefs d'État, un diplomate ne peut pas être accompagné d'une femme voilée. Une femme voilée ne peut pas travailler dans la télévision. Une femme voilée ne peut pas, bien entendu, on peut pas aller à l'école, mais non plus, une fille ne peut pas aller à l'université avec le voile. C'est un peu comme la Turquie, si vous voulez. Je pense que dans la Turquie, les choses commencent à changer, mais en tout cas, en Syrie, c'est la situation actuelle.
Nous disait un auditeur via le live @rockick.com, là, évidemment le religieux est le moyen le plus efficace de toucher les esprits dans une société féodale où il n'existe pas réellement de classe moyenne éduquée. On le constate encore aujourd'hui au 21e siècle.
Je ne sais pas s'il n'y a pas de classe moyenne éduquée. Il y a quand même une classe moyenne éduquée au Moyen-Orient, en tout cas dans les pays panarabes.
C'est un problème social,
on peut faire tout expliquer par la politique.
Oui.
Vous savez, l'islam joue un rôle très important dans la vie des musulmans. C'est un fait. Alors on essaie parfois de trouver des explications en disant oui, mais parce que ce sont des pays pauvres, ou alors, mais excusez-moi, l'Arabie Saoudite,
ouais, c'est pas un pays pauvre. On peut quand même être d'accord sur un point, là, Masri, parce que c'est prouvé que partout où il n'y a pas la possibilité, ou enfin l'argent n'est pas là, où est-ce qu'il y a un sous-développement d'une population, c'est beaucoup plus facile pour des individus d'aller les éduquer avec un enseignement religieux très fort que, par exemple, dans une société où le savoir est plus facile et plus accessible, par exemple, que pour les sociétés en France, pour la société en France ou encore au Québec ou encore en Amérique du Nord. Par contre, si on tombe dans des endroits où est-ce qu'il y a un certain seuil de pauvreté, c'est prouvé noir sur blanc que la religion est plus forte.
Oui, la religion dans sa forme spirituelle, ou déshérité, etc. Mais vous savez quand même, l'islam politique au Moyen-Orient, on peut pas le comparer avec le christianisme en Afrique ou en Amérique latine. C'est quand même les proportions sont tout à fait différentes. Bon, alors les choses sont que la Syrie, paradoxalement,
oui,
ce que l'on vient de dire, la Syrie n'a pratiquement que des alliés islamistes à l'extérieur de ses frontières. Ça veut dire que c'est un État ultra laïque à l'intérieur qui n'a que des alliances islamistes. La Syrie parraine des organisations islamistes, le Hezbollah au Liban, le Hamas dans les territoires disputés, le djihad islamique. Mais surtout que, et c'est là que l'illustration prend sa forme la plus significative, c'est son alliance avec un État islamiste, avec une puissance islamiste, avec la République islamique d'Iran, que la Syrie a soutenue durant la guerre Iran-Irak en 80-88, et continue aujourd'hui à soutenir. Alors aujourd'hui, cette alliance a atteint son paroxysme. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette étude de mon point de vue, et qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est de constater que ce sont les deux derniers régimes idéologiques au Moyen-Orient, le régime panarabe, désormais orphelin après la chute de son frère ennemi irakien et puis l'effondrement de tous les mouvements nassériens. Et puis de l'autre côté, l'Iran, qui est le seul pays véritablement islamiste dans la région, et puis ces deux régimes idéologiques, prosélytes, puisque chacun d'entre eux cherche à étendre, à exporter sa révolution, en tout cas son idéologie, et que ces deux États aujourd'hui sont alliés. Alors cette alliance, évidemment, elle prend des, elle est tout à fait menaçante. On la trouve surtout en Irak, on la trouve dans les territoires disputés, on la trouve au Liban, avec le Hezbollah qui est parrainé à la fois par l'Iran et par la Syrie.
Exactement.
Et cela est tout à fait préoccupant, surtout après la. Vous savez que la Syrie est mise au ban de la Ligue arabe depuis la guerre la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah. La Syrie, alors il y a eu une surenchère verbale. Le président syrien, d'abord il y a eu les chefs d'État arabes qui n'ont pas soutenu l'offensive, qui n'ont pas soutenu l'action du Hezbollah, qui ont accusé ceux qui ont soutenu cette escalade militaire d'irresponsables. Et puis la Syrie a répondu, oui, en qualifiant ceux qui ont critiqué cette action et ont qualifié des responsables sont des sous-hommes.
Masri Feki,
les a appelés Ansaf al-Rijal, les sous-hommes. Il parlait de Moubarak, du roi Abdallah de Jordanie.
Masri Feki, on a un auditeur aussi qui un peu, parce que vous l'avez chatouillé un tout petit peu, qui dit, je ne reprends pas pour répondre un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne reprends pas dans la classe moyenne les petits fonctionnaires qui tiennent le pouvoir en place. Or, la classe moyenne dans ces pays est largement représentée uniquement par des fonctionnaires. Donc, je maintiens qu'il n'y a pas réellement, réelle classe moyenne dans ces pays-là. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez rajouter à ce commentaire.
De quel pays vous parlez? De la Syrie, vous parlez?
Exactement.
C'est-à-dire que c'est une explication qui est... à mon avis, c'est un argument qui n'explique pas le phénomène. Quand vous avez des universitaires qui ont souvent eu leur thèse soutenu leur thèse de doctorat en Europe et qui s'expriment sur des chaînes publiques en vous expliquant que je prends l'exemple d'un professeur égyptien de l'université Ain Shams qui s'exprimait à la télévision en expliquant que le shahid, le martyr, il va vers le paradis et que la science a prouvé que, enfin, il a donné des explications scientifiques pour des actes barbares, en se disant la psychologie du shahid qui est poussé par l'amour d'Allah et la volonté d'arriver au ciel, et puis ça, des choses totalement aberrantes, si vous voulez. C'est pas une question de manque d'éducation. On peut pas expliquer ça par la pauvreté ou le manque d'éducation. C'est une culture. Et puis, faut pas essayer de tout comparer avec, d'entrer un peu dans une logique de relativisme culturel. Et c'est vrai que dans les pays pauvres, la religion joue un rôle important. C'est vrai qu'on retrouve que le christianisme est beaucoup plus répandu en Amérique latine, en Afrique qu'en Amérique du Nord ou en Europe. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps,
quoi qu'il y ait un recul du christianisme dans les endroits que vous venez de nommer, qui sont remplacés tranquillement par l'islam. Hein?
Oui, en Afrique surtout. Oui.
Surtout en Afrique.
Alors, comment voulez-vous expliquer cela? Vous ne pouvez pas expliquer tout par l'économie ou le manque d'éducation. Il y a des pays très pauvres en Asie, il y a des pays de dictatures pauvres, mais on voit pas ce phénomène d'extrémisme religieux, en tout cas qui prend la forme du terrorisme. Comme nous voyons aujourd'hui, le terrorisme, il est islamiste, le terrorisme. Tous les musulmans ne sont certes pas des islamistes, bien évidemment. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Il y a des musulmans très bien, mais les terroristes sont tous des musulmans. Ça, ce sont des faits. Les attentats sont tous revendiqués par des musulmans. D'accord ?
Oui.
Donc c'est un problème lié à une certaine culture, une certaine conception de la religion, une certaine conception du monde qui est incompatible avec les valeurs du monde actuel. Et évidemment, ce sont des choses intolérables.
Kibir Jbil qui voudrait amener son petit grain de sel. Oui, Kibir, bonjour. Oui. Comment allez-vous?
Très bien. Alors, vous-même?
Très bien, Kibir.
Bonjour, Kibir. Bonjour, Kibir.
Oui, il faut juste que j'arrête le site, là,
oui.
Comme d'habitude.
Exactement. Voilà. Bon, on vous écoute, Kibir. Qu'est-ce que vous avez à rajouter, s'il vous plaît?
Oui, bonjour à Mesri. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la classe moyenne, le fait de l'existence ou de la non-existence d'une classe moyenne dans un pays quelconque, et en Syrie en l'occurrence, ne peut pas justifier, si vous voulez, une adhésion massive à telle ou telle opinion. Il faut bien comprendre que l'islam est...
Excusez-moi de vous interrompre, Kébir, mais vous dites opinion ou religion?
Je dis l'un et l'autre, puisque la religion peut être perçue comme une opinion.
Soyons clairs, religion c'est religion, opinion c'est opinion. Ça peut être une opinion, ça peut être sur n'importe quel sujet. Je pense qu'il faut être précis là, sur ce sujet ici.
Oui, donc aujourd'hui parlons de religion alors. Et depuis l'avènement de l'islamisme des frères musulmans, nous savons qu'il y a des méthodes de quasi lobotomisation de la population, pour parler cru. Et donc, il ne peut pas la personne qui est extrêmement cultivée ne peut pas plus échapper à cette lobotomisation que la personne qui n'a aucune culture. Donc, la classe moyenne là-dedans ne peut pas non plus y échapper. Et on voit bien que, par exemple, vous prenez un Tariq Ramadan, il est riche à milliards. Je prends un Youssef Karadawi qui règne, si vous voulez, sur la planète, sur la Oumma musulmane, il est riche à milliards. Et sur le bas de l'échelle, vous prenez la petite voilée d'Aubervilliers, elle vit probablement au SMIC, elle est BS, comme on dirait chez vous, mais elle adhère aux mêmes opinions.
RMI, oui.
La classe moyenne, voilà, ou RMI, la classe moyenne, elle subit les mêmes choses. Donc il n'y a aucune raison pour que la classe moyenne échappe à cette stratégie de détournement, si vous voulez, de la conscience de la raison.
Ah, je suis tout à fait d'accord là. J'ai jamais dit le contraire, mais quand même, le fait qu'ils soient plus en moyen leur permet d'avoir un peu plus de facilité d'échapper à cet engrenage, à cet engrenage vicieux dans des endroits où ce que c'est sous-développé. Parce que on peut le voir de par l'histoire là, Kébir. Je pense que je me trompe.
Non, absolument. Absolument pas, puisque ce qu'il faut savoir, hein, ce qui est fondamental, c'est que l'islam prône des valeurs ultralibérales. Donc
des valeurs ultralibérales. J'aimerais savoir, donnez-moi des exemples, s'il vous plaît.
Ah ben, les exemples, je viens de te les donner. Les musulmans les plus en vue, ceux qui prônent l'islam, sont riches. Et alors, si tu veux vraiment...
Économique,
bien sûr.
Je suis d'accord avec Kébir, mais Kébir veut dire libéral dans le sens économique du terme, hein, bien sûr.
Absolument. Mahomet était un commerçant riche, puisqu'il s'est marié
grâce à Khadija, hein.
Grâce à sa femme, bien entendu. Donc, il y a cet héritage de l'ultralibéralisme économique.
Je ne suis pas d'accord du tout. Est-ce qu'ils sont pour le capitalisme? Vous me parlez de libéralisme, je ne veux pas mélanger les choses, mais ça se rapproche quand même, hein, le libéralisme et le capitalisme. Alors, est-ce qu'ils sont pour ça aussi? Parce que, nécessairement, si on regarde du côté de l'Égypte, on pourrait faire tout de suite un ratio au niveau de la situation économique. C'est pathétique. Même chose pour la Syrie, même chose pour l'Iran. Les gens, il n'y a pas un système où est-ce qu'il y a des pauvres, classe moyenne, et il y a des riches. Ils sont soit très très puissants ou plus ou moins en moyen de se payer une miche de pain à la fin du mois. Je ne suis pas d'accord du tout sur le plan libéral, moi.
Ah bon, bah écoute, mais c'est justement, tu prends, mais en Égypte par exemple, Masri sera beaucoup plus
exact.
Enclin d'en parler. Mais globalement, l'islam favorisant l'ultralibéralisme, tu vas avoir des gens très riches qui vont vouloir profiter de gens très pauvres.
Je vous en envoie, Kébir. Je vous envoie une question un peu plus carré. Par exemple, libéral comme de baiser une gamine à 9 ans, là, par exemple, vous m'avez nommé Mahomet, là, OK? Hein, de nommer alors puis de la dévierger à 6 ans. Est-ce que c'est ça que vous me parlez d'être libéral?
Non, on parle de libéralisme économique, c'est-à-dire que...
Vous parlez de libéralisme comme de tuer, par exemple, les chrétiens...
D'ailleurs, les Américains l'ont rapidement compris. Il excluait tout rapprochement entre les communistes et les musulmans. Et non seulement parce que les communistes, bien sûr, ils sont athées, alors c'est inacceptable pour les musulmans, mais surtout aussi parce que le système économique communiste ne correspond pas à l'islam. Et puis je vous rappelle aussi que l'islam n'a pas aboli l'esclavage comme on le dit aujourd'hui. L'islam a prôné la disparition de l'esclavage. Mahomet disait que celui qui libère un esclave serait récompensé fil akhra, le jour du jugement.
Okay.
Ou alors l'esclave qui se convertit à l'islam, ce serait une hasana de le...
Oui, encore une autre.
Abou Bakr el-Siddiq aussi, qui est devenu le premier calife orthodoxe. Et alors lui, c'est un qui est le père d'ailleurs de Aïcha. Et lui, il était, il achetait les esclaves, hein, oui. Il les achetait, il les libérait. Donc c'était une grande mitzvah, comme on dirait dans le judaïsme. Mais Mais voilà, donc l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Alors aujourd'hui, on dit l'islam a aboli l'esclavage. Non, il ne l'a pas aboli de façon.
C'est faux.
Parce que, ben, parce que ça allait, c'était important pour le à l'époque. Hein, c'était un, ça allait provoquer un désastre économique, hein, l'abolition de l'esclavage, si c'était fait de façon brusque.
Alors vous êtes enclin à dire que même les intellectuels sont lobotomisés là-dedans. Même ceux qui ont accès au savoir, qui en ont les moyens, seraient eux aussi lobotomisés par l'islam.
Certains, c'est-à-dire que je ne dis pas par exemple que l'aisance sociale, disons que le niveau social ou le niveau intellectuel ne sont pas suffisants pour lutter contre la pression islamique ou islamiste, peu importe. Du coup,
on pourrait apporter une petite précision, oui. C'est que en français, alors bon, les occidentaux, ils aiment bien le politiquement correct, ils aiment bien respecter les choses, que les choses se font dans les règles. Alors, islamiste, bon, en arabe, il n'y a pas, ça n'existe pas le mot islamiste. Comment on pourrait dire islamiste? D'ailleurs, ça n'existe pas. On dit islam. Ça veut dire islamique, musulman, islamiste. Ça veut dire la même chose.
Okay.
Il n'y a pas vraiment de différence.
Oui. Donc, je vous donne un exemple. En France, nous avons un certain Saïd Bouhamama, qui est sociologue.
D'accord.
Qui est quand même relativement bien connu. Et qui est complètement dans cette démarche. Qui est sous cette pression-là, mais c'est lui qui a fait la démarche volontaire. Hein. Donc, il est dans les indigènes de la République, il crache sur la France, alors qu'il travaille, il est payé par la France, etc. Et c'est toute cette complexité, à mon avis, qu'il faudrait comprendre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces populations, qu'elles soient en France ou qu'elles soient dans des pays du Moyen-Orient ou du Maghreb, ça change pas grand-chose. Mais à l'intérieur de ces populations, il y a des tensions qui ne sont pas forcément assumées.
D'accord. Non, c'est un point de vue, c'est une opinion, comme vous me l'avez amené tout à l'heure, Kébir. Mais je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter?
Juste un petit point. J'aimerais poser une question. Donc, c'est à propos de la Syrie et de l'Iran. Pour moi, l'alliance Syrie-Iran, c'est d'abord l'alliance islamique avant des divergences. Parce qu'il me semble qu'il y a des divergences quand même entre la Syrie et l'Iran. Et j'aimerais que Masri peut-être s'il peut nous apporter un éclairage sur ces divergences et pourquoi elles sont masquées au profit d'une alliance plutôt temporelle qui serait religieuse. Merci.
Merci Kébir. Masri va sûrement être en mesure de répondre à votre question. Je vous remercie beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir. Masri, on vous écoute.
Oui, alors moi je crois que l'alliance entre la Syrie et l'Iran est une alliance profondément réaliste, hein, qui prend en compte la réelle politique. Une alliance véritablement politicienne.
Oui. Avant tout c'est politique.
C'est-à-dire que la Syrie, bien entendu, la Syrie aurait préféré être alliée avec une puissance non islamiste. Vous savez, c'est très gênant pour le régime syrien, un régime qui a toujours combattu l'islamisme à l'intérieur de ses frontières et qui là se trouve dans une situation où toutes ces alliances régionales sont c'est fait avec des islamistes. Plus que l'Iran d'ailleurs, puisque l'Iran, vous savez, l'Iran s'allie avec des pays, c'est un peu de diversifier ses alliances, essayer de se rapprocher de Hugo Chavez, du régime totalitaire, véritablement totalitaire de Biélorussie. Et puis de la Russie aussi, dans une moindre mesure. Mais l'Iran aussi a une politique très réaliste, hein, qui alors on a beau parler de panchisme, de panislamisme, de volonté d'exporter la révolution, c'est vrai que c'est une volonté, mais c'est plus une rhétorique. L'Iran se sert de l'islam, le régime en tout cas iranien se sert de l'islam pour atteindre des objectifs qui sont purement nationaux. N'oubliez pas que alors quand on dit que l'Iran par exemple est le seul pays chiite au monde, c'est pas vrai. L'Azerbaïdjan aussi est un pays chiite, mais l'Azerbaïdjan est un pays laïque. Bon, c'est la différence.
Okay.
Sauf que l'Iran s'allie avec l'Arménie chrétienne contre l'Azerbaïdjan. L'Iran est en conflit avec l'Azerbaïdjan. Vous savez qu'au nord de l'Iran, il y a une importante minorité azérie. Qui habite notamment la province d'Azerbaïdjan. Vous savez, il y a deux Azerbaïdjans. Il y a la province iranienne d'Azerbaïdjan et il y a la République d'Azerbaïdjan ex-soviétique. Et il y a plus d'Azéries en Iran qu'en Azerbaïdjan. Il y a une sorte d'irrédentisme. Les Azéries d'Iran, nombreux parmi les Azéries d'Iran, voudraient être rattachés à l'Azerbaïdjan. En tout cas, la République d'Azerbaïdjan encourage les mouvements séparatistes à l'intérieur de l'Iran. Alors, on pourrait discuter du poids de ces mouvements à l'intérieur de l'Iran. Est-ce qu'une majorité des Azéris, je ne veux pas me faire étrangler par Kaveh Mohseni, je sais, il n'aime pas que j'aborde les choses sous cet angle.
D'accord.
Mais c'est une réalité. Alors je ne prétends pas que la majorité des Azéris sont pro-Azéris, sont attachés à l'Azerbaïdjan, mais en tout cas il y a des mouvements séparatistes soutenus par l'Azerbaïdjan. Ce qui fait que l'Iran se sert donc de l'ennemi juré de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, pour endiguer l'influence azérie dans la région. Et alors que l'Azerbaïdjan est aussi chiite comme l'Iran. L'Iran s'allie avec un pays chrétien contre un frère chiite. Et puis on pourrait multiplier les exemples. L'Iran qui s'allie avec la Syrie, un pays
laïque. La langue officielle, le Masri. Excusez-moi, mais la langue officielle là-bas, c'est quoi?
Où? En Iran?
Oui, en Iran, pardon.
Alors en Iran, la langue officielle, c'est le persan.
Le persan, c'est ça exactement, ok.
Tout à fait, oui.
Oui, c'est une petite question comme ça au passage.
Alors le persan, c'est d'ailleurs, on sait pas forcément en Iran qu'on parle le persan. Vous savez que le Tadjikistan est aussi persanophone.
Oui.
Les Tadjiks parlent persan aussi.
Oui.
Alors souvent on dit qu'ils parlent le Tadjik, mais en réalité c'est le persan, mais ils l'écrivent à caractère, ils ne l'écrivent pas avec le même caractère arabo-persan comme le persan en Iran. Et puis il y a aussi le Dari en Afghanistan.
Et parce que j'aimerais juste aussi comprendre, le suprême leader, la personne en chef,
oui.
Non pas le président, mais qui est déjà le suprême en chef là-bas?
Oui, c'est Ali Khamenei. Alors je m'excuse aussi parce que je le prononce à l'arabe.
Non, aucun problème. C'est tant mieux. On avait eu avec Anne-Marie Delcamp des cours d'arabe. Alors au contraire, ça fait juste. Ça fait juste m'aider à poursuivre, à apprendre.
Il faut juste faire le rare comme vous dites. Khomeini.
Parce que
si vous dites la révolution khoméniste, vous dites communiste, on pense à autre chose.
Oui, exactement.
On pense au rouge plus qu'au vert.
Oui, tout à fait.
Oui, mais et donc alors voilà, si vous voulez, c'est une alliance purement politicienne entre l'Iran et la Syrie. Mais on n'est plus aujourd'hui dans la situation où on parlait de la Syrie et l'Iran comme d'alliés égal à égal. Aujourd'hui, l'alliance, vous savez mon livre, l'Iran, l'axe irano-syrien, je crois que je vous l'ai dit lors d'un précédent entretien, mais j'aurais dû l'appeler en réalité l'axe irano-iranien. La composante iranienne est prédominante. La Syrie n'est qu'un vassal de l'Iran aujourd'hui. La Syrie, vous allez me dire oui, mais l'Iran a toujours été plus importante que la Syrie.
Pouvez-vous me donner une image quand vous dites cela de la Syrie à quelque part? Est-ce que c'est une sorte de bouclier? Je ne sais pas.
C'est une sorte de bouclier. C'est-à-dire que la Syrie a toujours le régime syrien a réussi de façon très fine à faire de la Syrie un pont entre l'Iran et les pays arabes anti-iraniens.
D'accord.
Durant la guerre Iran-Irak.
Ok, d'accord.
Et de ce fait, la Syrie a réussi à jouer un rôle important. Le père de l'actuel président Bachar al-Assad, son père, Hafez al-Assad, était proche de l'Iran et il a réussi à, en quelque sorte, il était plus le régime syrien était plus important. Que jouer un rôle important. La Syrie était plus importante que sa véritable taille objective, si vous voulez. Un peu comme le roi Hussein de Jordanie qui jouait un rôle important alors que son pays est une puissance, une petite puissance. Mais et puis l'Iran aussi, qui est une grande puissance, n'avait pas véritablement le poids qu'elle était censée avoir, hein, puisqu'elle était l'Iran était encerclé par ses voisins. L'Iran était en guerre contre toute la région. Vous savez que l'Irak était soutenu par tous les pays arabes. Oui. Tout le monde était pro-irakien à l'époque. Et donc de ce fait-là, il y avait une sorte d'équilibre entre l'Iran et la Syrie. L'Iran, qui est évidemment plus puissante que la Syrie, plus grande par sa géographie, par sa superficie, sa démographie, mais l'Iran jouait un rôle moins important que le rôle qu'elle devait avoir. Et puis la Syrie était plus grande, plus importante que sa taille objective. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a un recul de puissance en Syrie. La Syrie est isolée sur la scène régionale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis l'Iran a été au contraire. L'Iran a réussi à grâce aux Américains d'ailleurs. Les Américains ont réussi à débarrasser l'Iran de ses ennemis jurés, notamment l'Irak, de Saddam Hussein, mais aussi dans une moindre mesure l'Afghanistan, les talibans. Alors c'est une situation paradoxale, parce que d'un côté l'Iran a perdu ses ennemis, mais en même temps l'Iran est encerclé par les Américains. Les Américains sont en Asie centrale, ils sont en Ouzbékistan, des bases américaines fleurissent en Asie centrale, notamment depuis le 11 septembre, qui ont servi dans la guerre contre l'Afghanistan.
Parlant du 11 septembre, Massri, 11 décembre aujourd'hui, vous avez sûrement vu ce qui s'est passé à Alger.
Oui, j'ai suivi. Ouais.
Est-ce que c'est voulu? 11?
Je ne suis pas entré dans la tête des organisateurs.
Mais... Non, je sais bien.
Mais oui, enfin... je m'accorde pas beaucoup d'importance aux dates, vous savez, mais je crois que bien entendu, ça entre dans la stratégie d'Al-Qaïda, de vouloir déstabiliser... déstabiliser au maximum les États qu'ils considèrent comme illégitimes, qui pourchassent les islamistes de leur point de vue. Et pour eux, c'est le sens même de la noblesse.
C'est ça, de mon côté, on me donne des informations via le live @rocky.com et on me parle du nombre de personnes qui ont été tuées. On parle
maintenant. 34,
on est rendu à 62. 62 personnes.
62.
62 personnes qui ont été tuées et plusieurs autres personnes grièvement blessées. On parle de 200 personnes qui ont été blessées en ce moment, là, qui sont blessées à l'heure actuelle. Et on n'arrête pas de sortir des corps, des décombres. Là. C'est vraiment navrant de voir ce qui se passe.
Oui, alors c'est curieux parce que c'est d'un point de vue islamiste. Ces gens islamistes radicaux, parce que même les islamistes que déjà nous dénonçons tous les jours, je pense pas qu'ils approuvent tous l'action d'Al-Qaïda, mais en tout cas du point de vue de ces gens-là, y a rien de mauvais. Alors vous leur dites, mais il y a des femmes et des enfants, regardez les photos, c'est atroce, comment vous pouvez dire que ça c'est au nom de Dieu, au nom de la religion? Alors ils vont vous dire, mais ces gens-là, ce sont des shuhadas. Ce ne sont pas seulement les kamikazes qui sont des shuhada, mais même leurs victimes. Si leurs victimes étaient des gens bien intentionnés, de bons musulmans, alors c'est vrai qu'ils souffrent un peu parce que c'est pas la joie de mourir dans un attentat, et surtout si vous êtes grièvement blessé, vous succombez à vos blessures à la suite de l'attentat. Mais bon, ce sont des shuhada. On les a aidés à devenir shahid. C'est un cadeau. Ils doivent être contents. Vous voyez un peu la conception, leur conception des choses. Et puis, de toute façon, c'est pour servir à la bonne cause. C'était vraiment la fin qui justifie les moyens pour. Mais vraiment à outrance.
Ok.
Comment vous. Oui.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que là, j'ai hâte de lire votre livre le plus tôt possible et pouvoir être en mesure de bien maîtriser ce que vous y parlez à l'intérieur. J'espère qu'on pourra se reparler la semaine prochaine, mardi prochain, comme à l'habitude.
Oui, j'espère aussi.
Oui.
Alors j'aimerais bien discuter un peu pour être un peu avec l'actualité, Annapolis, oui. Ce qui s'est passé à Annapolis. J'aimerais bien parler un peu d'Israël la prochaine fois. Si,
certainement, monsieur.
Si vous le permettez.
Ça va me faire plaisir, Masri.
Merci, Ismaël.
Je vous souhaite une excellente fin de journée.
À vous aussi, Ismaël.
Au revoir, au plaisir.
Au revoir.
Alors, c'était Masri Feki que vous venez tout juste d'entendre. Il est 9h03. On cesse notre verbiage et on revient tout de suite après ceci. Merci d'écouter le www.rockkick.com. Wake up le show, live à rockkick.com. Et il y a un petit comique qui me dit ceci, off, là, en marquant de ne pas le dire. 62 morts en Algérie et la Ligue de défense et la Ligue de défense des animaux ne proteste pas. Je déconne, humour. Effectivement, c'est de l'humour. Merci, vous êtes sur le www.rockkick.com. Je vous le répète, wake up le show jusqu'à 10h en compagnie de Christian Dallaire au sport, Patrick Lamarche à la co-animation et votre sale enfant de chienne de Punisher, Maréchal Ismaël Trépanier. On revient tout de suite après ceci.
Un autre moment historique du 400e anniversaire de Québec. En 1534, Jacques Cartier débarqua pour la première fois à Québec et se fit accueillir par les colons dans un secteur nommé
Van News!
You know that you rock and you fucking kick!
Rockkick.com! Mesdames et messieurs, si vous voyez pas ça, vous êtes des caves!
Rockkick.com!